Alors, ce que je vais faire dans les deux prochaines minutes, c'est vraiment de préparer les tweets, retweeter à toutes les personnes. L'émission va commencer dans 2-3 minutes, pour vrai. Là, je fais juste comme enclencher le live pour qu'il y ait des gens qui viennent directement écouter. Et après ça, on va commencer l'émission. On a une grosse, grosse émission. Alors, je fais juste retweeter. Ça ne va pas être très, très long. Je vais dans mon sur YouTube pour retweeter et rebalancer l'information, la bonne nouvelle à tous ceux qui écoutent. Alors, je ne vous regarderai pas dans l'écran pour le moment. Vous comprenez pourquoi. Et après ça, on va commencer l'émission. Vous êtes vraiment dans le pré-show de l'émission présentement. Et on est en direct live de Montréal. Voilà. Alors, je vais, j'ai le lien vers l'émission. Alors, je vais retweeter directement en live. Et après ça, on va commencer l'émission dans 2 minutes. On n'a presque pas de retard. Alors, je vais tweeter ça rapidement. Alors, ceux qui sont dans le chatroom, si vous voulez retweeter, allez-y. Ne vous empêchez pas. Bon, Twitter ne fonctionne pas. C'est pas grave. On va mettre le chat. Tout est beau. On se prépare pour l'émission. 5 personnes qui regardent. Bonjour à ces 5 personnes qui regardent là. On est aussi sur Kick. Ah, voilà. Alors, poster. Venez rejoindre en direct. Voilà. Au moins, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour Slaterman, on va commencer tout de suite. Et je vais préparer les notes pour vous les montrer. Alors, trois, deux, un, go. Bonjour, bienvenue dans ce lac, bienvenue dans l'émission du live d'Apple et compagnie, pour ça le lac, c'est ça les 3 lettres. Merci d'être là, merci de nous rejoindre. Bonjour Isa, bonjour Slater, vous êtes dans la chatroom pour certains en direct, soit sur Kick, soit sur YouTube. J'ai une grosse émission, on va commencer par le menu de l'émission. Vous allez aujourd'hui avoir la chance d'avoir un expert qui va vous parler de craft. Alors qu'est-ce que c'est que craft? On va en parler en long, en large et en travers avec un invité spécial. Anytype, une application qui peut-être est dans la compétition de craft. Je vais vous faire une petite présentation. On va parler du Stream Deck Pedal. On va parler d'un comparatif que j'ai fait avec Antidote Plus. Est-ce que des outils de correction d'orthographe sont aussi bons maintenant que l'intelligence artificielle? Vous verrez les résultats tout à l'heure. Apple Furet. Create. Pika, Copilot et Suno. Alors, ça va être l'émission d'aujourd'hui, de quoi on va parler. Alors, tout d'abord, avant de commencer l'émission directement, je voudrais vous remercier pour l'année 2023, qui a été tout simplement phénoménale en termes de statistiques pour la chaîne YouTube, Apple et compagnie. 149% d'augmentation, on a maintenant 1500 abonnés de plus cette année, ce qui est vraiment beaucoup pour une petite chaîne qui a à peine 2 ans et demi. Alors, merci infiniment. J'aimerais faire un merci particulier à Viviane, Gilles et Nicolas qui ont fait des super merci à plusieurs reprises pour certains et qui sont même déjà abonnés au Patreon. Alors, merci infiniment à ces personnes-là. Tout de suite. Bonjour, Xavier DX. Alors, aujourd'hui, on a un invité que je vais vous présenter tout de suite. Que je vais accueillir dans la salle. Alors, une bonne main d'applaudissements pour ceux qui vont le voir pour la première fois. Bonjour Jean-François, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Merci pour cette invitation aujourd'hui. Puis ben, bonne année en passant.
Oui, merci. Merci à toi. Bonne année à toi. Je te souhaite tout ce qui est bon pour toi et ta chaîne et toutes tes créations de contenu. Parce qu'on va le voir. Et si vous avez déjà flashé le code QR, vous allez vous rendre compte que Jean-François est très prolifique. Jean-François Martin, je vais te laisser te présenter. T'es qui? Tu viens de où? Pourquoi citizen numérique? Sur Internet, tu produis quoi généralement comme contenu? Je vais te laisser te présenter aux auditeurs de la communauté.
Alors, Numérique Citizen, je voulais utiliser un autre nom à l'époque, mais c'était déjà pris. Alors, je me suis concentré sur Numérique Citizen parce que je trouvais que ça faisait un clin d'œil à cette notion de citoyen numérique, pour laquelle j'ai une passion de créer du contenu qui tourne beaucoup autour d'Apple en général, des applications ouais. qu'on retrouve dans l'écosystème Apple, mais aussi sur des sujets comme la photographie, puis des sujets un peu plus controversés comme la crise climatique, des choses comme ça. Donc, ça, c'est mon hobby, mais de manière professionnelle, je travaille dans les technologies d'information dans une entreprise de Montréal.
Et puis, tu as débuté une chaîne YouTube il y a quoi, un an et demi maintenant?
À peu près un an, oui.
Un an à peu près, aller voir sa chaîne YouTube, qui était au début spécialisée dans craft, ça va être le sujet principal. Tu as commencé à parler d'autres sujets, notamment microblog.
Mm-hmm. Effectivement, microblog est une plateforme de microblogage qui est souvent comparée à Twitter, mais qui n'a pas du tout la comparaison s'arrête rapidement. Là. Donc, c'est vraiment une plateforme intéressante.
Ça permet de faire du cross-posting, ce qui est intéressant aussi. Là, si vous cherchez une plateforme pour le faire, ça peut être chouette. Mais aujourd'hui, le sujet dont on va parler, on va parler de craft. C'est pas pour ça que je t'ai invité, mais le sujet, je vais mettre le QR code à l'écran pour que vous puissiez aller télécharger l'application ou aller voir pendant qu'on va faire la présentation. Alors, craft, c'est quoi craft, Jean-François?
Bien, d'abord, ce n'est pas le jeu vidéo qui est maintenant la propriété de Microsoft. Essentiellement, Craft, c'est un logiciel d'édition de texte, de documents. C'est un logiciel qui est comparé beaucoup à Notion. Donc, et la raison pour laquelle c'est souvent comparé à Notion, c'est que la métaphore qui est utilisée pour créer des documents dans Craft est un peu similaire à celle qu'on retrouve dans Notion. C'est-à-dire que, contrairement à un traitement de texte où on écrit du texte sans trop se soucier de la façon que le texte est structuré, dans Craft, tout comme dans Notion, les éléments qu'on crée dans une page, dans un document, c'est des blocs. Mm. Ceux qui sont sur WordPress puis qui utilisent, je pense, l'éditeur s'appelait Gutenberg, utilisent aussi le même concept de bloc. Et les gens sont un peu polarisés par rapport à ce concept-là. Il y en a qui trouvent que c'est super flexible parce que ça permet de réorganiser le contenu d'un document rapidement. Donc, quand on est plus en mode de rédaction, mais en mode brainstorming, après ça, lorsqu'on veut faire des itérations sur le document et réorganiser le contenu, bien, la métaphore des blocs est plus intéressante à ce niveau-là. Pour d'autres, le mode bloc est un frein à une certaine fluidité dans l'utilisation d'un traitement de texte.
J'en suis.
J'en ai un. Moi, je préfère le mode bloc et c'est probablement dû à ma façon d'écrire. Je suis très itératif. Je réécris rarement un document du début à la fin avec une révision finale. Je suis vraiment itératif. Mes idées s'organisent au fur et à mesure. Donc, ça demande souvent de la réorganisation, des choses comme ça. Dans ce contexte-là, Craft, c'est un bon produit, c'est un bon éditeur de texte pour mes besoins.
Craft, ce n'est pas américain, hein. Tu me disais que ça vient
non.
de...
Craft, c'est une compagnie européenne. Si je me souviens bien, je pense que c'est en Hongrie. Je ne voudrais pas induire les gens en erreur, mais c'est assurément c'est-à-dire européen. Quand on regarde un document qui est créé par Craft, on voit tout de suite une signature qui est propre au produit de par les facilités de formatage du logiciel où on peut utiliser des styles pour formater des entêtes, des blocs qu'on appelle des pages à l'intérieur des documents. On appelle ça aussi des cartes. Il y a un style, il y a vraiment un look qui est propre à lui, si je peux dire. Donc, c'est vraiment un éditeur de texte.
Un éditeur de texte. Est-ce qu'on peut le comparer? La comparaison se fait tout le temps, c'est ce que tu me disais, mais oui. Par rapport à Notion, est-ce que c'est la notion de database est conservée dans Craft ou c'est vraiment un éditeur de texte comparativement à ce que Notion, des fois, peut faire plus? On peut s'en servir quasiment de CRM, d'outils, de professionnels pour gérer des données. Est-ce que Craft aussi permet ça?
En fait, le fait que tu mentionnes les bases de données, c'est important parce que je pense que s'il y a deux éléments vraiment différenciateurs de Notion par rapport à Craft. Notion, je dirais que c'est un éditeur de base de données déguisé en traitement de texte, alors que Graph, c'est essentiellement un éditeur de traitement de texte avec pas aucune facilité de base de données.
OK.
D'ailleurs, ce que les gens qui arrivent de Notion puis qui commencent à utiliser Graph vont lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas cette notion-là de base de données comme on le retrouve dans Notion. L'autre élément différenciateur qui est super important, c'est le fait que dans Notion, on ne peut pas travailler hors ligne. On a besoin d'une connectivité qui est permanente. Alors que dans Craft, on peut faire un certain nombre de choses. Lorsqu'on n'est pas connecté, lorsqu'on est en mode avion, par exemple, on est dans l'avion de point A au point B, on peut quand même ouvrir le logiciel et faire de l'édition dans des documents. Et c'est sûr qu'il y a certaines précautions à prendre pour être sûr d'avoir la version locale sur son appareil. Mais assurément, la notion de travailler hors ligne avec Craft est beaucoup plus étoffée. En fait, fonctionne relativement bien par rapport à Notion parce qu'il n'y a aucune possibilité de travailler en mode hors ligne.
Non, c'est ça. Notion, c'est vraiment une plateforme typiquement SaaS. Le fait que tu mentionnes hors ligne, ça m'intéresse parce que est-ce que on pourrait dire que Notion a des possibilités pour justement quitter la plateforme? Parce que il y a un coût d'entrée dans une plateforme en ligne. Quand c'est une plateforme sur un poste local, est-ce que tes données sont toutes en local? Comment ça marche au niveau de la sécurité chez Craft?
Les données sont essentiellement dans le cloud, si on veut, okay. Logique. Donc, dans ce sens-là, ça se rapproche d'un service SaaS. Par contre, les données locales ne sont pas exposées à l'utilisateur. Comme par exemple, on pourrait retrouver dans Obsidian, qui est un autre concurrent, qui est un peu dans le même univers que Notion, puis que Craft, puis Anytype, ces produits-là. Les fichiers locaux ne sont pas vraiment... dans l'expérience, je dirais par défaut, là, les fichiers locaux ne sont pas exposés à l'utilisateur. Le format n'est pas non plus un format qui est, je dirais,
propriétaire. Portable.
C'est un format propriétaire. Okay. Par contre, on peut utiliser un mode dont le stockage des données sont locales et le mécanisme de synchronisation à ce moment-là va être iCloud. Par contre, j'ai un bémol, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu des pertes de données en lien avec ce mode d'utilisation-là, qui fait que actuellement, comme les données pour moi, c'est vraiment absolument critique. C'est pas le genre de mode que je recommande d'utiliser Craft. De toute façon, la fonctionnalité de synchronisation de Craft est l'une des meilleures qui m'a été donnée de voir dans des produits. Donc, c'est vraiment la façon d'utiliser Craft.
Alors, il y a un moyen de garder ces données sur son cloud Apple iCloud, mais il y a eu des problèmes par rapport à ça. Toi, tu privilégies l'expérience complète Craft passant par leur serveur.
Exact.
Ce faisant, tu es un peu pris dedans. Est-ce qu'il y a moyen d'exporter les données si un jour Craft, ça disparaissait?
Oui, exactement. Il y a plusieurs façons d'exporter des données. Les deux formats qui sont les plus portables, je dirais, et non commerciaux, parce qu'on peut exporter des documents dans Word, par exemple, Microsoft Word. On peut exporter des fichiers en format Markdown. Donc, pour ceux qui connaissent la notation d'écriture Markdown, on peut c'est les fichiers dont les extensions, c'est .md. Donc, on peut exporter dans ce format-là. On peut aussi exporter en format Text Bundle, qui est un format un peu plus évolué que Markdown. Il y a un peu plus de métadonnées qui sont conservées dans ces fichiers-là. Par contre, plus les documents dans Craft sont complexes, avec une certaine arborescence à l'intérieur d'un document, plus l'exportation des données va poser problème parce que ces formats-là, Markdown et TextBundle, ben, on ne peut pas représenter une structure en tant que telle. C'est des documents qui sont plats et à ce niveau-là, ça pose un peu un problème au niveau de l'exportation de données. Dans ce cas-là, il faut aller par morceaux, mais quand même, si je compare la façon qu'on peut sortir des données de Notion, par exemple, je ne veux pas que ça devienne une comparaison Notion et Craft. Là,
mais, non.
Craft est plus limité en termes d'exportation de données que Notion est plus limité en termes d'exportation de données que Craft. Craft vraiment supporte plus de formats.
OK, alors Craft, si je résume, si j'ai bien compris, c'est vraiment un outil de prise de notes en type bloc non linéaire. Qui permet de faire des liens entre les blocs ou les notes, c'est ce que j'ai compris.
Exact.
On ne perd pas ces données, on est toujours propriétaire des données. Si un jour Craft disparaît, on récupère les données, mais on va perdre tout ce qui est l'enrobage, les liens, ces choses-là. Mais la donnée en tant que telle. Tu parlais de texte, mais est-ce qu'on peut mettre des pièces jointes, des fichiers, des images, des vidéos, des trucs comme ça? OK.
Oui. Dans les derniers mois, ils ont introduit ce qu'on a la notion de smart link, des contenus embarqués, là, embedded, à traduire, mais donc ils s'ouvrent un peu plus à des formats comme on peut coller un lien vers un vidéo YouTube, donc on peut jouer le vidéo YouTube à l'intérieur du document, la même chose pour Vimeo, puis il y a d'autres services qui sont offerts, puis d'une version à l'autre, le nombre de plateformes supportées augmente avec les versions.
Mais ça, c'est embed, ça veut dire que le fichier est à l'extérieur, mais est-ce qu'il y a moyen, exemple, de je fais un document sur une étude, sur quoi que ce soit, je vais chercher toutes mes sources et je les mets dans Craft, ou je mets le lien vers ces documents-là?
En fait, on peut faire les deux. Okay. Certaines personnes vont vouloir, par exemple, insérer le PDF lui-même ou de garder le PDF à l'extérieur puis de sauvegarder un lien vers le document. Ça, c'est possible. On peut faire aussi, évidemment, des diagrammes qu'on peut importer, donc les images, les vidéos, les PDF. On peut aussi faire du dessin. Pour ceux qui sont sur Apple, vont pouvoir utiliser l'outil de dessin qu'on trouve sur l'iPad. À l'intérieur, ça va devenir un bloc en tant que tel, avec le crayon, oui. Il n'y a aucune reconnaissance de caractère, par contre, là, c'est quelque chose qui est reproché d'ailleurs à Craft, mais pour le moment, en tout cas, on peut travailler à l'intérieur d'un bloc, puis dessiner avec l'iPad à l'intérieur de ce bloc-là.
Tu vas nous présenter un peu ton Craft à toi. Est-ce que c'est comme ça qu'on le dit, ou c'est ton document? Comment on appelle ça?
Une des fonctionnalités super intéressantes de Craft qui fait que je suis vraiment accroché à cette plateforme-là, c'est la rapidité avec laquelle on peut écrire un document et le rendre disponible en ligne.
OK.
C'est très, très rapide, c'est très facile à faire en termes de processus, si on veut, et ça se rapproche aussi beaucoup à ce qu'une notion fait à ce niveau-là. Donc, ce que je peux faire actuellement, c'est que je peux vous présenter un document qui a été créé directement.
Yes.
Dans Craft, puis là, je vais vous présenter la version qui est live en ligne. Donc, pour les fins de la démonstration, en fait, ça se trouve être ma landing page, ma page d'arrivée, si on veut, sur...
D'atterrissage ou d'accueil, ou tout cas...
Ma page d'accueil, si on veut. Donc, ce qu'on remarque dans ce document-là, ici en haut à gauche, il y a un menu hamburger, si on veut, là, dans lequel on peut cliquer, puis on a la table de matière du document en question, ce qui nous permet de naviguer rapidement à l'intérieur du document juste en cliquant sur un lien. Donc, ça, c'est la table des contenus qui est générée automatiquement par Craft avec l'utilisation des en-têtes de sections.
Craft, juste avant de continuer, ce que tu nous montres là, c'est la page d'atterrissage. Excuse-moi, j'ai pas accroché là-dessus. Est-ce que c'est là où on peut éditer, ou c'est juste on est en mode visible seulement?
Non, on est en mode visible.
Okay.
On est en mode visible. La version éditable est presque identique. C'est juste que le pourtour va être les outils vont apparaître, mais ça, c'est vraiment la version qu'un visiteur verrait là, en cliquant sur le lien qui est ici en haut dans la barre d'adresse.
Est-ce que toutes les pages qu'on va créer dans Craft sont nécessairement publiques, ou tu as un contrôle plus granulaire sur ça?
On a un contrôle plus granulaire. On peut, par exemple, avoir un mot de passe, protégé par un mot de passe. On peut aussi avoir un lien qui va expirer après un certain temps. Donc, ça permet d'avoir un contrôle plus fin. On peut aussi, depuis récemment, depuis la version 2.6, on peut bloquer les accès seulement sur des individus avec leur adresse de courriel ou avec le suffixe du domaine. Donc, après le A commercial, là, on peut dire bien, tous les gens qui sont de A commercial compagnie.com, par exemple, ces gens-là auraient accès aux documents en autant qu'ils connaissent l'URL.
Ah, ce qui veut dire que c'est pas juste personnel, ça marche aussi pour les entreprises. Je peux avoir ma compagnie, mon nom de domaine, puis tout le monde pourrait avoir là-dessus un accès public en mode collaboratif. Est-ce que c'est le mode collaboratif, c'est à la mode Apple, c'est-à-dire un peu bancal, ou ça marche vraiment bien, le mode collaboratif?
Ça marche plutôt bien, en fait. En fait, le mode Apple s'est amélioré avec le temps, mais je pense que la version de Craft fonctionne très bien. Pour ce que j'en ai vu, parce que je travaille pas nécessairement avec, mais j'ai fait des tests avec moi-même, avec deux comptes différents. Donc, ça marche, ça fonctionne quand même relativement bien. C'est sûr qu'il y a des petits défauts, mais de manière générale, ça fonctionne bien. L'autre truc aussi, c'est que si vous regardez le lien, l'adresse qui est dans la, qui est ici, indiqué qui est là, c'est...
On le voit pas à ton écran, l'adresse, là, mais... non.
Donc, je pense qu'il est partagé dans le... On pourrait le mettre dans le chat si tu voulais, mais c'est un nom de domaine qui m'appartient, c'est numericcitizen.me. Et le sous-domaine, c'est Crafted, donc c'est R-A-F-T-E-D. Donc ça, c'est un nom de domaine qui m'appartient. Et cette possibilité-là existe seulement quand on souscrit au niveau business dans la souscription de Craft. Et à ce moment-là, ça permet un plein contrôle sur le nom de domaine et aussi sur le fait qu'on peut afficher, par exemple, en bas ici à gauche, j'ai mon petit icône où est-ce qu'on voit que c'est mon visage qui est là. Donc, on peut changer dans le fond l'enveloppe commerciale du produit pour la rendre plus personnelle.
Corporatif ou personnel. Ou...
Exact. Okay. Et en termes de richesse de documents, si je parcours rapidement, donc, les sections qu'on peut étendre pour avoir plus de détails. Et ensuite, si, donc ça, c'est un exemple de lien qui est un lien un peu plus formaté. Si on veut, c'est un bookmark mais qui pointe vers un site externe. Ici, j'ai des sections que je peux aussi étendre, dans lesquelles je parle un peu de mon univers créatif au niveau de l'écriture, de la photographie, du vidéo, ainsi de suite. J'ai une section sur mes objectifs pour 2024 comme créateur. Un peu plus bas, j'ai des tuiles, dans le fond, on appelle ça des cartes dans lesquelles je peux aller cliquer sur une carte en question. Et là, on voit le mode de navigation, comment ça se présente.
Okay.
On va tasser à gauche. D'où on vient, puis à droite, on a la portion qu'on vient consulter. Donc, on peut faire donc des liens avec des sous-sections pour décrire davantage de quoi ces sites-là parlent. C'est un exemple. Puis vous remarquerez, je ne sais pas si on le voit dans cette présentation-là, mais quand je me promène vis-à-vis un bloc, il y a une réaction que je peux mettre. Et je peux aussi rajouter un commentaire, si je voulais, pour écrire un texte, par exemple.
OK, c'est un peu à l'image de Medium où un élément en particulier dans le blog, tu peux ajouter un commentaire plutôt qu'un blog traditionnel où tu le mets en bas et tu n'as pas le contexte de où est-ce que tu l'as mis. Là, la
exact. Exact. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la suite de Google Docs. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté quand même depuis un certain temps. Fait que ça permet à des gens, c'est une fonction que tu peux désactiver si on veut. Si tu veux faire une page où est-ce que tu ne veux pas que les gens laissent des commentaires ou des réactions, tu peux désactiver en tant qu'auteur ces fonctionnalités-là. Mais si tu veux permettre aux gens de commenter ton contenu, à ce moment-là, tu as la possibilité de le faire en permettant les réactions avec des émojis ou avec du texte en tant que tel.
Et puis, on peut faire un document Craft qu'on partage en public, puis d'autres qu'on ne partage pas. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On peut vraiment bien segmenter les types de documents.
Absolument. C'est super granulaire comme contrôle. Le partage, l'élément de base de départ d'un partage, c'est le document lui-même à l'intérieur duquel tout ce qui va être en dessous, s'il y a des sous-pages, par exemple, vont être automatiquement partagés à l'intérieur du document racine, si on veut. Et on peut avoir un autre document complètement séparé qui parle complètement d'un autre sujet qu'on partage avec des règles de partage différentes, avec des paramètres de partage complètement différents.
Donc, outil de prise de notes très avancé. Alors, j'ai fait mes devoirs, j'ai été vérifié sur une plateforme que j'aime bien au niveau des outils de productivité qui s'appelle... Je vais y arriver, ça sera... très, très long. J'ai été sur une plateforme qui compare en fait tous les outils de productivité. Ça s'appelle Tool Finder. Et puis, selon Tool Finder, ils ont identifié Craft comme étant un outil pour les intermédiaires. Fait que c'est les débutants, est-ce que tu es assez d'accord avec ça? On va avoir de la misère à se retrouver au début? Ou...
Ben non, je pense que la courbe d'apprentissage est quand même relativement pas si élevée que ça, dans le fond. L'approche initiale du produit est quand même relativement... approchable, si on veut. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on veut peut-être se lancer dans le partage de documents, par exemple, ou des questions qu'on voit souvent, c'est ceux qui écrivent beaucoup de contenu, comment je devrais organiser mon contenu à l'intérieur de la plateforme? Ça, c'est des choses qu'on retrouve, mais on comprend que ces questions-là ne sont pas nécessairement propres juste à Craft, c'est des questions que dans n'importe quel logiciel, on va trouver, tu sais, dans Notion, dans Anytype, même dans une boîte de courriel, comment je devrais organiser mes courriels, c'est un peu la même chose.
Ouais.
Par contre, pour ceux qui utilisent la méthode Para ou qui entendent parler de la méthode Para, c'est un logiciel qui supporte très bien cette méthode-là, où on a une vue par projet, par ARIA comme ressource et comme archive. Là. C'est une méthode qui est populaire. Si vous googlez para méthode, vous allez voir que c'est intéressant. Et Kraft supporte très bien cette méthode-là.
Moi, je suis assez convaincu pour l'essayer. On dit que c'est, en termes de d'entrée, si je veux l'essayer, justement, combien je dois débourser? Est-ce que je peux essayer gratuitement cette plateforme-là?
Oui, il y a un mode gratuit, dans le fond, qui permet de créer jusqu'à un maximum de 10 documents. Là, les gens vont dire, oh my God, 10 documents, c'est pas énorme. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Pour un certain nombre de personnes, des étudiants, par exemple, ça peut être peut-être un peu limité. Mais pour essayer le logiciel puis d'avoir aller chercher un petit peu la saveur, avoir goûté au produit, c'est quand même bien. Par contre, il y a un nombre de blocs limité. Je ne me souviens pas exactement c'est quoi. Je pense qu'on le voit ici là, à l'intérieur du tableau que tu présentes présentement. On peut présenter, c'est un espace à l'intérieur duquel on peut avoir un maximum de 1 gig de stockage avec des données d'analyse de visiteurs de base, ainsi de suite. Puis là, on augmente dans les tiers au niveau des souscriptions, mais on va augmenter les fonctionnalités.
En regardant la tarification, je vois que Kraft est à la mode. Il y a de l'AI dedans, il y a de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait avec cette intelligence artificielle-là dans Kraft?
Bien, en fait, ils ont rajouté cette fonctionnalité-là l'année passée, en 2023. C'est basé sur ChatGPT version 3.5. C'est quand même bien comme complément. Hein. Ça ne se veut pas un remplacement de l'auteur. On pourra en reparler plus tard dans l'émission si je pense que tu vas toucher à des sujets entourant ça. Ça permet, par exemple, de réécrire un titre, de suggérer un contenu ou de corriger, par exemple. C'est les mêmes fonctionnalités qu'on va retrouver beaucoup au niveau des autres logiciels. Donc, de faire un sommaire du document, par exemple, si on veut faire un document d'introduction qui est un peu un sommaire, on a juste à sélectionner tous les blocs puis demander à l'assistant de faire un sommaire. Fait que c'est quand même bien.
Ça peut nous aider à reformuler certains trucs de manière plus simplifiée. OK, parfait. Et puis, version gratuite, tu as accès aussi à ces assistants.
C'est limité. Le nombre de requêtes est limité, je pense, à 25 ou à 50, à 250 dans le mode tiers, puis dans le mode business, je pense que c'est 1000, quelque chose comme ça, mais je ne m'en sers pas assez souvent même pour me rendre.
Pour qu'on soit clair avec les auditeurs, tu n'es pas payé par Kraft, là?
Pas du tout. Même si j'ai un T-shirt ici, je ne suis aucunement payé, subventionné de quelque façon que ce soit.
Même que tu es dans la communauté Kraft et tu es assez critique de la plateforme des fois.
Oui, parce que je pense que le Kraft, c'est un logiciel qui est très bien, mais qui n'est pas parfait, comme la plupart des logiciels, d'ailleurs. Puis non, je ne me gêne pas pour critiquer. J'ai même monté ma propre site web dans lequel les gens peuvent soumettre des requêtes de nouvelles fonctionnalités et tout. Ça crée un petit peu une controverse parce que on m'a demandé de renommer le board parce que c'était trop proche de la marque de Kraft. Donc, je suis sur surveillance, si on veut, ou en probation. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je ne me gêne pas de dire quand les choses vont bien, mais aussi quand les choses vont moins bien.
Alors, ça s'appelle Kraft. Je vous remets à l'écran le lien pour y aller. Je vais vous remettre aussi à l'écran. Je vous ai mis dans le chat, pour ceux qui sont dans le chat présentement. Je vais même l'afficher en même temps que l'autre. Bref, je suis multi-affichage en ce moment. Le lien de Kraft avec le code QR, vous pouvez flasher. Vous avez le lien pour le Kraft de Jean-François Numérique Citizen, si vous voulez aller voir un peu tous les outils et les plateformes et ainsi de suite qu'il utilise. Il a mis ça dans son Kraft. Alors, ça vous donne une idée de comment vous pouvez partager un peu dans Kraft. Tu as une chaîne YouTube aussi. C'est Numérique Citizen sur YouTube, c'est bien ça?
Numérique Citizen Videos, absolument, oui.
Et puis, ben, là-dedans, c'est du Kraft en anglais. Mais si quelqu'un t'envoie des commentaires, il n'y a pas de problème, tu vas répondre en français sur tes vidéos.
Anglais-français.
Anglais-français. Puis évidemment, ben, on peut faire les sous-titres en français pour avoir, quand on a de la difficulté à comprendre, d'afficher au moins les sous-titres en français pour regarder ta vidéo. Et si on ne comprend pas, ben, on peut demander des questions. Merci beaucoup pour cette mini-introduction à Kraft. C'est tout un univers. Si vous voulez commencer à bien comprendre, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Jean-François parce que ben, tu as près de 80 vidéos. Je pense qu'il y en a 70 juste réservées à Craft, d'après moi.
À peu près, oui, à peu près.
Je pense que c'est une belle introduction à l'univers de Craft, outils d'édition. Si on veut terminer avec ça, toi, ça fait combien d'années que tu es avec Craft? À un an à peu près?
En fait, non, mais j'ai commencé à la fin 2021. Donc, le logiciel venait de sortir en mode sortir de la période bêta, donc c'est fin 2021, début 2022.
Et toi, l'avenir de Craft, tu as vu beaucoup de nouveautés. Moi, je sais que quand j'ai commencé à regarder Craft du coin de l'œil, c'était juste réservé à Apple. Maintenant, ça marche sur Windows, ça marche sur le web. Ils ont l'air d'être assez... ça a l'air d'être une compagnie assez vigoureuse pour sortir beaucoup, beaucoup de nouveautés, en tous les cas.
Oui, la cadence de nouvelles versions est quand même assez, je dirais, est plus élevée que la moyenne. Il y a un certain essoufflement dans les derniers mois où les mises à jour sont un peu moins fréquentes. La dernière date de novembre. D'habitude, ils sortent une version à peu près toutes les 2 ou 3 semaines. Là, ça fait depuis la fin novembre. Ils n'ont pas de bêta non plus ouverte au public, chose que les gens leur reprochent parce qu'il manque une belle opportunité d'aller chercher du feedback, à mon sens. C'est une façon étrange de développer du logiciel en 2024. Je pense que quand il y a des passionnés d'un logiciel, il faut vraiment aller chercher le feedback, à mon sens. Mais oui, les mises à jour sont quand même assez fréquentes.
Excellent. Écoute, on va surveiller ta chaîne, on va surveiller Craft, on va tester Craft, on va prendre la version gratuite puis voir si ça nous plaît. Moi, je vais vous présenter un logiciel. Évidemment, je n'ai pas le niveau d'expertise de Jean-François par rapport à ce logiciel-là. Je suis plus en surface par rapport à au logiciel que je vais vous présenter. Je vais vous présenter aujourd'hui AnyType. AnyType, qui est un logiciel qui me semble être dans la même veine que Craft. Peut-être pas autant évolué que Notion dans tout ce qui est, automatisation. Tiens, Craft, est-ce qu'on on est capable de faire d'automatisation comme Notion, on est capable de faire?
C'est limité. Il y a quelques actions shortcut qui sont supportées, mais depuis l'introduction de tout ça, ça n'a pas évolué. Non, en fait, ça n'a pas évolué du tout depuis le début de support des shortcuts, là, si on veut. Mm-hmm. C'est quand même assez limité.
OK. Bon, ben là, AnyType, il n'y en a même pas du tout. Mais AnyType a l'avantage, lui, d'être complètement open source, complètement gratuit. Alors, ce que vous voyez sur mon écran présentement, c'est ma fenêtre AnyType. Alors, AnyType, c'est un logiciel d'édition par bloc. OK? C'est le même principe un peu que Craft ou Notion sur cet axe-là. Édition plus en mode base de données, je te dirais, par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Les avantages de AnyType, c'est open source, c'est gratuit, peer-to-peer, ça veut dire que les données ne sont jamais sur un serveur centralisé, mais c'est tous ceux qui ont du AnyType qui se partagent, qui partagent les données. Est-ce que je peux lire les données des autres? Non, évidemment, parce qu'il y a de l'encryption. Alors ça, tout se passe en arrière-plan par rapport à AnyType. C'est un logiciel multiplateforme. Alors, il est sur Windows, il est sur Mac, il est sur Linux, il est sur Android et sur iOS. Il n'y a pas de version web. Ça ne se veut pas être web. Ça se veut vraiment être un logiciel résident sur ton poste. Ceux qui ont des enjeux par rapport à Notion concernant la conservation des données, toutes ces choses-là, là, vous l'avez peut-être un petit peu moins parce que c'est du peer-to-peer encrypté, ce qui fait que c'est jamais résident sur un serveur en particulier. Vous êtes capable d'importer facilement, d'exporter facilement toutes les choses que vous allez faire dans AnyType, mais assurément, vous ne pourrez jamais faire comme ce que vous avez vu avec Jean-François pour Craft, c'est-à-dire faire une page web quasiment ou faire un site web complet avec AnyType. Ce n'est vraiment pas l'objectif. Par contre, au niveau collaboration, c'est assez puissant ce que j'ai pu voir par rapport à AnyType. Je vous le fais vite, sans être un expert de ces genres d'outils-là, pour ceux qui me suivent qui me suivaient dans Real Life, vous savez que j'ai beaucoup de difficultés avec Notion, puis je viens de l'avouer même que j'ai beaucoup de difficultés avec tout simplement le mode bloc. Mais en gros, ce que vous voyez là, c'est ma fenêtre AnyType. Alors, vous voyez que j'ai fait un set qui s'appelle LAC, le live avec Apple et compagnie, où j'ai mis les sujets dedans, où vous voyez, vous pouvez mettre toutes sortes de pages à l'intérieur d'un set, mais vous pouvez mettre aussi d'autres types d'éléments, d'autres types de données. Là, vous voyez, c'est une note. Mais est-ce que je pourrais, je vais vous montrer les types de sets qu'on peut avoir, les types de données. Alors, on peut avoir des audios à l'intérieur, comparativement à ce qu'on peut voir dans d'autres logiciels. Ce n'est pas un embed, là, c'est vraiment, il y a le fichier dedans. Audio, vidéo, des livres, des bookmarks, des notes, des idées. Vous pouvez avoir des librairies déjà préfaites. Alors, vous avez des collections qui appellent. Vous pouvez faire des... Par type de AnyType, vous allez pouvoir faire des listes de bookmarks. Si vous cherchez un logiciel de bookmark, mais vous ne voulez pas vous enfermer dans un type en particulier, bien, vous pouvez prendre directement AnyType. Vous pouvez faire votre journal personnel là-dedans. Vous allez pouvoir faire des collections de clients. Bref, c'est assez gros. Et comme un peu Craft, Notion et ainsi de suite, on ne peut pas arriver dans ces outils-là sans apprendre comment ça fonctionne puis se donner du temps d'apprentissage par rapport à ces outils-là. C'est disponible sur toutes les plateformes, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de façon d'écriture manuscrit par rapport à ça. Mais comme je vous l'ai mentionné, vous êtes capable de faire toutes sortes de grilles, de vues, de façons de voir l'information différentes. Et toutes ces façons de voir-là ben, peuvent donner des facettes différentes à l'information, typiquement. Si vous avez des clients, une liste de clients, vous pouvez faire une liste des noms des clients. Puis après ça, vous faire une liste des noms de la dernière fois que vous avez contacté les clients. Ça peut être les deux facettes différentes de voir l'information. AnyType permet ça. Vous pouvez, si vous avez, je ne sais pas moi, des recettes, ben faire une liste de toutes vos recettes. Et puis, à l'intérieur des recettes, mettre des recettes qui sont plus italiennes, chinoises, véganes, végétales. Et après ça, faire des facettes d'information pour redistribuer l'information différemment dans AnyType. Vous pouvez vous faire un AnyType à vous. Vous pouvez vous faire un AnyType d'équipe. Vous pouvez en faire illimité. Pour le moment, les seules limites, c'est le stockage qui est limité dans AnyType à 1 giga par document. Alors, dans un document, vous pouvez aller jusqu'à 1 giga. Il n'y a pas d'information comme de quoi que l'application deviendrait payante. Elle est open source en ce moment. Et puis, il y a une grosse communauté qui la maintient. C'est assez récent, je vous dirais, mais elle mérite l'œil ou d'aller faire un tour sur cette plateforme-là. Pour ceux qui ont des enjeux, peut-être qui trouvent ça difficile, comme Obsidian, ben peut-être que AnyType va arriver. Au niveau de la plateforme que j'utilise pour voir les logiciels puis les enjeux par rapport à ces produits-là, AnyType est aussi considéré intermédiaire. Son seul point faible, c'est la learning curve, c'est-à-dire la courbe d'apprentissage par rapport à l'application. Mais pour le reste, c'est assez dithyrambique. Puis en termes de maturité, elle n'est pas encore tout à fait au niveau de Craft, d'après les critiques, mais elle n'est pas loin. Si je vous dis Craft sur la plateforme Toolfinder est à 7.8 au niveau des outils de productivité, ben AnyType est à 7.6. Alors, vous voyez que c'est un peu, on joue à peu près dans les mêmes eaux de plateforme. Je vais vous en faire une vidéo dans les prochaines semaines, mois, par rapport à un détail plus avancé. Mais je tenais à vous le montrer parce que je trouvais qu'elle mérite le détour par rapport à ce qu'on peut faire. Et je trouve ça fichtrement intéressant que l'écosystème des plateformes du genre Notion se développe et que ce soit pas juste Notion qui prenne le lead là-dedans.
Ça me fait penser, en fait, il y a deux remarques que si je peux me permettre. La première remarque, c'est que la façon que tu décris AnyType me fait penser beaucoup à un autre logiciel du même univers, des logiciels de ce type-là, c'est Capacities, qui fonctionne beaucoup sur le concept des objets. C'est aussi un éditeur de blocs et tout. C'est un espèce de mélange entre un Notion puis un Craft, mais avec sa propre saveur qui est orientée beaucoup au niveau de la création du type d'objet. Donc, si votre univers à vous, c'est l'observation d'oiseaux, vous pouvez avoir des objets de type oiseaux, des objets de type observation. Donc, ceux qui font des bases de données vont peut-être un peu reconnaître les concepts de relations aux différents types d'objets. Le deuxième truc, c'est la fréquence de mise à jour de AnyType. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est du domaine open source? Est-ce que c'est relativement fréquent?
C'est une bonne question. J'ai malheureusement pas la réponse. On peut aller chercher pendant l'émission, mais c'est pas vieux. Okay. Et puis le niveau de maturité de AnyType présentement versus toutes les fonctionnalités qu'il y a me donne le signe que c'est quand même... tu vois, ça a été créé en 2019. 2019, une compagnie, en tous les cas, une communauté qui a traversé la pandémie avec ce qu'on sait, les enjeux qu'il y a pu avoir. 2019, c'est allemand à la base. Et le niveau de maturité et de rapidité de sécurité par rapport à ça, ça me semble bon. Je ne pourrais pas te dire exactement. Là, je vais aller voir sur AnyType.
Ouais, je vais regarder pendant que...
Sur AnyType, ils disent... On va trouver l'information. Il y a pas de... Vous pouvez vous abonner à la mailing list justement sur AnyType pour voir le suivi des mises à jour. As-tu trouvé?
Non, mais ça semble être une. En fait, ça semble être une mise à jour qui est basée sur au mois, par exemple. Parce qu'ils nomment leur mise à jour comme juillet, août. Okay. Donc, c'est peut-être mensuel, plus ou moins mensuel.
Donc, ça arrive quand même relativement souvent, les nouvelles fonctionnalités. Alors, surveillez ça du coin de l'œil, surveillez la chaîne aussi par rapport à AnyType. Je vais en faire un petit peu plus de descriptif. Je pense que j'ai trouvé mon notion à moi qui va bien. On va dire ça comme ça. Toi, Jean-François, pendant la période des fêtes, est-ce que tu as eu des cadeaux geeks? Est-ce que tu as eu des cadeaux un peu informatiques, gadgets, non?
Non, pas cette année.
Ben moi, écoute, j'en ai eu tout un. Je vous le présente à l'écran. C'est le Stream Deck Pédale. Alors, si vous me connaissez dans ReLife, vous savez que j'aime beaucoup la productivité. On vient de parler d'AnyType, on vient de parler de craft. J'aime beaucoup la notion de productivité. Et qu'est-ce que c'est, cette pédale-là? Ben, c'est le moyen pour moi, quand je fais du télétravail ou même quand je fais du travail, d'être plus productif. J'ai deux mains. J'ai mon clavier. Alors, j'ai mes raccourcis clavier. Des fois, j'essaie d'éviter la souris parce que raccourci clavier, je trouve que ça va bien mieux. Mais des fois, je voudrais faire d'autres trucs. Il faut que je sorte de l'application. Bref, j'avais mon Stream Deck avec des touches. Mais ce que ça ne me permet pas de faire, le Stream Deck, c'est d'être directement sur le clavier. Il faudrait que la touche soit proche, mais le Stream Deck est un petit peu plus en avant. Alors, dans mon souci de productivité, je me suis fait offrir une pédale où je me rajoute trois touches qui me permettent, tout dépendant de ce que je fais, de configurer ce que je veux faire. Alors, typiquement, là, vous voyez deux sets de configurations que j'ai fait. Le premier, c'est quand je fais des tutoriels où j'ai besoin de faire des captures d'écran. Alors, vous voyez, j'ai trois pédales. J'ai une pédale avec trois boutons. Hein, si vous voyez à l'écran, là, il y a vraiment la partie gauche, la partie du centre, la partie de droite, où on peut ajouter, vous voyez ici à droite, des actions. OK? Alors, de base, mes actions, c'est capture plein écran, capture d'écran, hein. Capture plein écran, capture de la fenêtre ou capture d'une portion d'une section. Mais je peux aussi très bien activer mon stream pédale pour que ça soit l'affichage de mon curseur, l'affichage d'annotation à l'écran. Et je peux configurer ma pédale pour qu'elle se change, pour que les boutons se changent en fonction de ce que j'utilise. Je m'explique. J'utilise un logiciel de montage audio. Ben, je vais mettre les raccourcis de mon montage audio directement après mes pédales. Ce qui fait qu'automatiquement, en fonction de ce que je fais, je me trouve à avoir trois boutons de plus sur mon clavier sans le toucher pour faire ce que j'ai à faire plus rapidement. Bref, c'était mon cadeau de mon temps des fêtes, la Stream Deck Pédale. Je vais en faire une vidéo plus complète par rapport à ça. Mais tout de suite, j'aimerais avoir une réaction, Jean-François. Est-ce que tu irais jusque-là, toi, d'avoir une pédale chez toi pour aller plus vite encore?
Non, en fait, je suis moi-même, j'ai deux Stream Deck. Là, j'ai un Stream Deck mini, puis j'en ai un autre avec les quatre boutons là, qu'on peut tourner. Donc, je crois beaucoup à l'hyper-productivité. Par contre, le seul truc que je reproche un peu à cette plateforme-là, cet écosystème-là, c'est que ça ne va jamais aussi plus loin que ce que la communauté est prête à développer comme outil pour intégrer avec des logiciels. J'utilise beaucoup ScreenFlow pour faire les enregistrements de mes vidéos. Il n'y a pas de moyen, par exemple, d'utiliser un bouton là-dessus pour faire une action précise dans ScreenFlow. Ça reste deux univers non connectés. Donc, ça, c'est dommage, mais je m'en sers quand même pas mal.
Ah, je vais vous le montrer à l'écran là, de quoi on parle avec Jean-François présentement par rapport à la communauté Stream Deck. Alors, au départ, les produits étaient vraiment réservés à est-ce que je vais dire des streamers, des joueurs en ligne, peut-être? Hein, ouais. Mais ça s'est démocratisé. Ah, tiens, je vais mettre ça comme ça. Ça s'est démocratisé. Alors, il y a le Stream Deck dont vous parle Jean-François avec les boutons. J'ai mon Stream Deck, moi, à 9 boutons. J'en avais un à 6 boutons auparavant. Et puis, ben, il y a des plugins. Alors, vous avez vu en arrière que ici, là, c'est tous les plugins que je me suis rajoutés dans mon Stream Deck. Où on peut les télécharger, ben, c'est à la boutique de chez Elgato, le fabricant de Stream Deck. Et puis, il y a toutes sortes de plugins qu'on peut ajouter. Quand on est sur macOS, on est plus limité. Ça, je dois le reconnaître par rapport à PC. Mais il y a quand même des affaires qui sont fichtrement intéressantes, dont un que je vous conseille. Si vous êtes amateur de shortcuts, d'automatisation d'Apple, ben, vous pouvez démarrer des automatisations directement à partir des Stream Deck de Elgato. Alors, ça multiplie quand même le pouvoir des possibles, hein, l'étendue des possibles. Et puis, il y a aussi IFTTT. Alors, si vous aimez l'automatisation à partir de ces choses-là, vous pouvez avoir IFTTT directement rattaché à un bouton, à un Stream Deck, comme parle Jean-François, ou ben, le mien qui est une pédale. On va vous la montrer. Une simple pédale qui se trouve en dessous de mon bureau et pour laquelle je suis capable d'activer d'autres trucs par rapport à ça. Alors, content de savoir que tu es dans la communauté Stream Deck. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas autant de plugins qu'on peut souhaiter sur macOS. Alors, sujet suivant, je vous ai préparé un petit test sur Antidote Plus. Je vous explique, ça fait des années que j'utilise Antidote. Ça doit faire depuis longtemps. La compagnie qui fabrique ça, c'est une compagnie québécoise, Druid, qui fabrique ces logiciels-là. J'ai souvent reproché à Druid de ne pas être proactif par rapport aux nouveautés du monde numérique. Typiquement, quand la mobilité est arrivée avec Antidote, et c'est encore vrai aujourd'hui, on a juste sur mobile un dictionnaire. On n'a pas un correcteur d'orthographe. Et ça, je trouve ça délirant qu'encore même aujourd'hui, ce soit juste un dictionnaire, l'application mobile. Par contre, sur l'application Windows, sur l'OS Windows, sur Windows, sur Mac, ben là, on a un éditeur qui va corriger vos fautes d'orthographe. Jusqu'à, je vous dirais, un an et demi, depuis avant l'avènement de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, qu'on connaît comme aujourd'hui, c'était encore une référence pour moi, Antidote. Ça change. Il y a beaucoup de choses qui changent et on voit qu'Antidote veut aussi changer parce qu'ils ont emboîté le pas de l'intelligence artificielle. Typiquement, vous pouvez maintenant, dans Antidote Plus, qui est une formation en subscription, moi, j'avais Antidote Normal, où on paye et c'est une licence perpétuelle. Licence perpétuelle, pas vraiment. Parce que quand on est passé de la 10 à la 11, ben, la 11 ne pouvait pas s'installer sur des vieilles versions de macOS. Alors, typiquement, si vous installiez la nouvelle version Ventura de macOS, ben, vous deviez absolument avoir Antidote 11. Alors, les licences perpétuelles, il y a un jeu de... On joue un peu au con avec ça en ce moment, là, les compagnies. Là, ils font juste assez pour dire « elle est perpétuelle », mais quand tu changes le système d'exploitation, il faut que tu rachètes. Faites les calculs parce que des fois, les abonnements ben, valent peut-être plus la peine. Ils font peut-être exprès aussi. Bon, c'est un modèle d'affaires. Tout le monde doit gagner son argent. C'est correct ainsi, mais les licences perpétuelles sont perpétuelles s'il n'y a rien qui change sur votre poste. Mais on sait qu'on met des mises à jour et puis que tout n'est pas tout le temps perpétuel. Donc, bref, j'ai switché à Antidote Plus parce qu'ils m'ont dit, Mathieu, si tu changes ta licence perpétuelle, tu as un an gratuit d'Antidote Plus puis tu abandonnes ta licence perpétuelle. Je ne l'aurais pas fait au début d'Antidote Plus, mais depuis, il y a ChatGPT et je me rends compte que je corrige de plus en plus mes fautes avec ChatGPT. Est-ce que tu es un utilisateur de ChatGPT,
Jean-François? Absolument. Absolument.
Payante? Ah oui, payante. Bon. Alors, il faut faire attention aux éléments que vous mettez dans ces outils-là. Il y a encore certaines problématiques au niveau de la protection des données personnelles. Faites attention à ça, mais pour écrire un texte ou des choses qui vont publiquement, comme Jean-François ou moi, ben, ChatGPT est parfait, là, c'est le bon usage. Et je commençais à me rendre compte que j'utilisais de moins en moins Antidote et je pensais ne plus avoir à l'utiliser. Mais quand j'ai pris l'offre d'Antidote Plus gratuit pour un an, ben, c'était parce qu'il y avait l'intelligence artificielle à l'intérieur. Et j'ai fait un test. Alors, vous voyez ici à l'écran, un texte, un paragraphe rempli de fautes. J'ai fait exprès. OK? Et j'ai comparé Antidote Plus qui permet maintenant la correction avec reformulation. Et c'est ce que j'aime de plus en plus dans les outils d'intelligence artificielle, c'est de reformuler les phrases. Les corriger, c'est correct. Maintenant, il y a plein d'outils qui les corrigent, même gratuitement, directement intégrés dans macOS, sur Windows, et ainsi de suite. Mais reformuler, il n'y a pas grand-chose. Et Antidote Plus l'offre. Mais on va voir que si vous comparez avec d'autres versions d'outils, ben, ça peut être peut-être moins avantageux ou plus avantageux. On va voir, j'ai fait un comparatif. Alors, vous avez le paragraphe avec plein de fautes d'orthographe. Et j'ai comparé Antidote Plus avec Language Tool, éditeur de Microsoft. Quand vous avez la suite Microsoft 365, vous avez éditeur qui vient dans Windows. ChatGPT 3.5, là j'ai mis l'icône du 3, mais c'est 3.5. ChatGPT 4 et Copilot. Et vous voyez le nombre de détections de fautes d'orthographe qu'ils ont découvert. Alors, moi, ma première surprise, c'était de voir que Copilot, il a détecté juste 14 fautes, alors que c'est le même moteur que ChatGPT 4 qui en a découvert 21 détections. C'est spécial. Au niveau des détections, vous voyez que Antidote Plus est dans le haut, mais pas le meilleur. Language Tool, je ne le paye pas, il est version gratuite, il m'a trouvé 24 erreurs. Alors, c'est des fois aussi le vieux, le nouveau français, parce qu'il y a ça aussi dans Antidote. Alors, c'est le c'est pas scientifique ce que j'ai fait. J'ai pris le même paragraphe que vous avez vu là, je l'ai passé dans les outils, j'ai demandé combien tu détectes d'erreurs d'orthographe, de formulation, de grammaire et ainsi de suite. Hein. Vous voyez, c'est le nombre de détections qui a été fait. Je répète, c'est pour m'amuser. Et j'ai demandé des reformulations et vous voyez que je vais mettre les notes de l'émission directement pour les abonnés. Je vais vous donner les reformulations qui ont été faites. Ben, Antidote Plus fait des reformulations, mais qui ressemblent beaucoup à ChatGPT 4. Fait que je pense qu'en dessous de ça, c'est le moteur de ChatGPT 4 qui a été pris. La reformulation de Copilot ne ressemble pas à 3.5 ni à ChatGPT 4. Elle est à elle toute seule, elle est différente. Mais bref, les quatre outils ont fait des reformulations. Je vous dirais que dans mon test par rapport à Antidote Plus, ce que j'ai le moins aimé dans Antidote Plus, c'est qu'on peut faire des reformulations seulement par bloc de paragraphes. Et là, je vais essayer de vous montrer à l'écran mon Antidote. Et j'ai décidé là, de me... Antidote.app. Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble.
C'est quand même drôle que dans la version 3.5 et 4, le nombre d'erreurs détectées, c'est similaire entre 22 et 21. Alors, on pourrait penser que, bon, d'abord, il y a un nombre limite d'erreurs que le texte contient, puis qu'on peut comprendre qu'il y a une limite dans la différence possible. Mais qu'à la limite, la version 4 a détecté une erreur de moins que la version 3.5.
C'est particulier, effectivement. Ça a été ma surprise dans mon petit test.
Je pense que la différence s'exprime plus dans la reformulation que dans la correction. Avec la version 4 de ChatGPT où il y a une plus grande flexibilité peut-être dans les reformulations.
Effectivement. Je vais prendre un texte dans le journal La Presse de ce matin. Je vais le mettre dans Antidote Plus que vous voyez à l'écran présentement. Et c'est pour illustrer l'enjeu que j'ai par rapport à la reformulation dans Antidote. Alors, s'il y avait eu des fautes d'orthographe, typiquement si je mets syndicat avec un « i » ici, il l'aurait détecté, il n'y aurait pas de souci. Vous voyez, je suis capable de faire comme dans Antidote normal, application lourde, là, en web, je suis capable de faire la correction. Avantage d'Antidote Plus, ben, c'est accessible via un navigateur, mais la version web seulement. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'application dans le clavier iOS, il n'y a rien de ça. C'est vraiment, il faut ouvrir un navigateur et puis faire l'application en mode raccourci sur le bureau de ton iPhone. Mais sinon, c'est vraiment dans le navigateur. Il n'y a pas d'application. Alors, vous voyez, il retrouve vraiment bien les fautes d'orthographe comme les antidotes normaux. Il n'y a pas de changement en arrière de ça. Par contre, je ne peux pas faire une reformulation complète. Il va juste prendre un paragraphe. Vous avez vu, j'ai sélectionné les deux paragraphes. J'ai demandé une reformulation et il reformule seulement un des deux paragraphes. Alors, il faut vraiment faire une reformulation par groupe de paragraphes. Ce n'est pas des phrases, c'est vraiment des paragraphes. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et là, il va remplacer... avec la suggestion de reformulation qu'il vous a offert. Alors, c'est vraiment un bel outil. Si vous êtes habitué à Antidote, vous ne voulez pas perdre vos marques, que vous êtes soucieux des données personnelles, tout ça, peut-être allez continuer avec Antidote, mais là, je vous conseillerais peut-être plus Antidote Plus en abonnement parce que les reformulations sont intéressantes. Ça vaut vraiment la peine de l'avoir aussi en version tablette, en version mobile. Je vous rappelle, c'est la version web seulement, mais au moins, vous avez un truc pour pouvoir faire d'édition sur tablette, sur iPhone, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas encore une application à proprement parler, comme on pouvait avoir, par exemple, avec Language Tool, où on a une application directement, puis on la met dans le clavier, qui est vraiment Grammarly, par exemple, aussi. Permet en Grammarly, c'est juste en anglais, hein, je pense, Jean-François?
Ouais, seulement en anglais.
Seulement en anglais. L'antidote, les outils que je vous ai montrés sont complètement en français et l'outil que j'ai utilisé, ben, j'ai utilisé des versions gratuites. Le nombre de détections, je les remonte à l'écran par rapport à Antidote Plus. Et puis, les reformulations. Alors, si vous êtes soucieux pour les données personnelles, vous êtes habitué avec Antidote, Antidote Plus, c'est un bon outil. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus vite parce que la reformulation est juste en mode bêta. Mais si vous avez des choses publiques à faire, ben, vous voyez que Copilot, en version gratuite, totalement gratuite, fait très bien le travail aussi. C'était mon test du mois, ma petite expérimentation sur les outils. On parlait d'intelligence artificielle, Copilot, ChatGPT, tout ça. Et puis, ben, il semble qu'Apple aussi arrive dans le bandwagon de l'intelligence artificielle. J'ai lu qu'ils allaient mettre toute l'énergie, les sources et les ressources possibles pour avoir des outils d'intelligence artificielle prêts dans les nouvelles versions d'iOS, iPadOS, macOS. Et on a déjà des versions installables. Vous pouvez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous faire une entreprise, la licence ne vous permet pas de le prendre en mode entreprise. Ça vous permet, en tant que chercheur, en tant que personne qui veut tester, vous pouvez installer Apple Furet. Je l'appelle comme ça. C'est un outil d'intelligence artificielle qu'ils ont mis open source, accessible à la communauté. C'est un outil multimodal. Alors, qu'est-ce que c'est multimodal? C'est qu'on prend du texte, on prend des images, on prend toutes sortes de formats et on envoie ça dans l'outil. Et après ça, il est capable de détecter certains éléments. Alors, vous allez sur GitHub et vous allez sur le compte de Apple. Là, je l'ai francisé là, à droite pour que vous voyez, là, mais c'est vraiment Apple dans GitHub et vous allez voir ML Furet et vous allez pouvoir le télécharger. Alors, modèle multimodal d'Apple permet d'identifier des objets, peut aller dans un petit peu plus que d'identifier, on peut aller dans la granularité, vous avez vu, juste avant que on ne le voit peut-être pas bien à l'image, mais je vous le décris. Là. On voit un chien, on voit un chat, on voit la queue du chat, on voit de quelle courbure de la queue du chat. Bref, on est capable de voir des éléments très précis, pas juste c'est un chat. Les rumeurs disent que ce premier modèle-là, Furet, va être adapté à Apple Photo, parce que Apple Photo, c'est un peu compliqué des fois de retrouver des photos. Il y a des trucs qu'il reconnaît, mais pas tout bien. Les chats, les chiens, ça va bien. Les humains, ça va bien. Les véhicules, ça va bien. Mais au-delà de ça, un véhicule rouge qui tourne à droite, ça, vous le trouverez pas. Un chat qui baisse la queue, qui a l'air fâché, vous ne retrouverez pas ça. Vous allez retrouver un chat, mais pas plus que ça. C'est supposé d'arriver dans Apple Photo. Ça va aider évidemment à la recherche dans Apple Photo. Mais il va y avoir aussi d'autres éléments qui vont arriver assurément dans Siri. Toi, je parle de Siri, Jean-François. Tu l'aimes sur 10, tu l'aimes combien, Siri?
6.
Oh, c'est généreux, je trouve.
Non, quand même. Je pense que ça dépend beaucoup de l'utilisation qu'on en fait. Par contre, par rapport à Furet, il y a quelque chose que je trouve super intéressant, qui va être super intéressant à suivre dans le futur proche. D'abord, c'est que c'est l'approche à Apple où le modèle est utilisé sur un appareil et non pas dans le cloud, c'est ce que j'en comprends. Donc, ultimement, c'est d'utiliser les ressources Apple Silicon, les puces que Apple développe depuis plusieurs années. Donc, c'est une approche qui peut être peut-être perçue plus sécuritaire d'un certain point de vue, mais d'un autre côté, plus limitée parce que les ressources de traitement, si on veut, sont plus limités sur un appareil, même si on a le meilleur des Mac.
Ouais.
Il y a quand même une capacité limitée d'exécution. D'autre part, tu me poses la question sur Siri. J'ai hâte de voir à quel point Apple est pris ou non avec une technologie qui est en arrière de Siri qui est malléable. Alors, c'est, oui. c'est qu'ils ont acheté ce truc en 2011-2010 avant la sortie du iPhone 5 ou du 4S, quelque chose comme ça. Si c'était une technologie qui était malléable, ben, ils vont probablement pouvoir intégrer relativement facilement des fonctionnalités similaires à ChatGPT à l'intérieur de Siri. Mais si on voit que c'est livré au compte-gouttes, moi, pour moi, ça va être un indice avec lequel probablement qu'ils sont pris un peu avec un truc qui est difficile à maintenir, qui est difficile à faire évoluer. Parce que si tu regardes dans les dernières années, Siri a évolué, mais pas énormément. Tant que ça, si on compare à d'autres, je ne suis pas très Google ou pas très Alexa, mais ce que j'en comprends, c'est que c'est le mal-aimé du domaine.
Au niveau francophone, à tout le moins, moi, j'avais tout l'écosystème d'Amazon j'ai switché tout l'écosystème Apple pour des enjeux justement de données. J'ai tellement bien fait ça que je ne peux même plus parler à aucun assistant parce qu'elle ne me comprend jamais ou pratiquement jamais. Alors, je me suis fait plein de raccourcis dans domicile ou maison ou même dans Shortcuts pour faire des trucs à la place de Siri. Pour moi, Siri, c'est vraiment juste pour la détection de sonnettes d'incendie dans la maison que je veux l'avoir partout parce que Siri permet de reconnaître les détecteurs d'incendie, des choses comme ça, pour te faire des pop-up à la maison et pour un peu jouer de la musique et pour les bruits blancs pour bien dormir la nuit. Mais c'est vraiment juste... Mais les interactions ont complètement été coupées de la minute que je suis passé d'Alexa à Siri. Bref.
Intéressant.
Si on continue dans... depuis tout à l'heure, on vous a mis des codes QR pour que vous puissiez flasher dans la vidéo. C'est plus intéressant que d'aller dans la description, cliquer dans le lien ou c'est plus compliqué des fois. Jean-François a une application à nous présenter aujourd'hui. Ça s'appelle Create, avec un Q, et qui est sur Mac et qui permet justement de faire des codes QR, mais plus beau qu'un simple code QR. Hein. C'est ça, Jean-François?
Exact. Donc, c'est un logiciel que j'ai découvert récemment la particularité, c'est que pour ceux qui ne le savaient pas, il y a beaucoup de variabilité possible avec les codes QR, en fait. Bien qu'on les voit dans la société de manière plutôt un peu pareille, on peut y donner un style. Alors, ceux qui, comme moi, créent du contenu sur Internet puis pour lesquels j'ai une espèce de branding que j'aime répéter un peu partout, bien, Create permet de le faire en choisissant, par exemple, si je viens en haut, bon, le contenu qu'on veut encoder, si on veut, et c'est un, dans ce cas-ci, c'est un URL. Et ensuite, on peut changer l'espacement autour de la case en question. On peut changer l'opacité, on peut changer la couleur de fond. On peut mettre aussi les couleurs différentes pour les pixels, pour les yeux ici dans les coins. Et on peut changer les formes des pixels en tant que telles. Moi, j'aime bien la forme ronde parce que je pense que rond, c'est plus... ça me rappelle un peu l'univers des cartes perforées.
Puis aussi, ça, Jean-François, ça vient de trahir ton âge. Hein?
Je sais, c'est... Quand tu parlais de druides informatiques, j'ai déjà rencontré un des fondateurs à l'époque quand ils ont commencé sur Mac. Je trouve ça tellement fascinant de voir qu'une compagnie comme ça perdure à travers le temps. J'en suis très fier que ce soit québécois. Et on peut changer la forme aussi, donc les yeux dans chacun des côtés. Et ultimement, au centre, on peut mettre une image. Bon, ça, supposément, ça me ressemble. Alors, à vous de me dire si le résultat est bon ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir après ça exporter, là, pour une raison probablement de partage, on ne voit pas l'option, là, mais on peut exporter en format PNG, JPEG ou simplement copier l'image dans le presse-papier pour le coller dans son logiciel favori pour une utilisation comme on le souhaite. Donc, c'est disponible pour Mac. La dernière mise à jour date d'il y a 4 mois. Il y a quelques petits bugs, mais de manière générale, c'est quelque chose qui fonctionne quand même très bien. Je l'ai adopté.
Écoute, on la conseille. C'est un logiciel qui vient de Mathieu Casinelli. Si vous êtes fervent de l'émission Mac Stories, Il en parle souvent, surtout parce qu'il partage beaucoup de shortcuts sur Internet que vous pouvez réutiliser. Il y a d'autres applications aussi qui partagent. Alors, c'est un gars assez connu. C'est assurément une application qu'il faut avoir. Ça coûte combien sur l'App Store?
Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. Je pense qu'elle est comme gratuite. Je ne suis pas sûr, mais peut-être que si tu vas voir sur le Mac App Store, moi, je l'ai téléchargé, fait que là, je ne vois plus le montant associé avec, là, mais j'ai l'impression que c'était gratuit.
En tout cas, si ce n'est pas gratuit, ça ne doit pas coûter énormément cher. C'est une application qui vous permet... Parce qu'il faut faire attention à les codes QR. Si vous utilisez des codes QR gratuits sur Internet, là, bien souvent, ils mettent un URL avant votre URL de redirection pour avoir de l'information, pour voler de l'information, pour toutes sortes de raisons. Okay? Mais ils mettent un URL entre votre URL d'origine que vous avez voulu mettre et le code QR pour attraper de l'information au passage. Alors, faites attention, là, utilisez des solutions qui ont été éprouvées là, comme Create, là, parce que des affaires en ligne gratuites, des fois, c'est vous le produit. Hein.
Exact.
Je voulais vous parler d'une autre application que j'ai vue cette semaine dans ma veille des outils d'intelligence artificielle. Ça s'appelle Pika. Je n'ai pas réussi à faire ce que vous allez voir à l'écran, mais pour moi, c'était quand même une révolution. Elle est gratuite, vous pouvez flasher le code QR. C'est une application pour ne pas faire juste une image, pour ne pas faire juste du texte, mais pour faire des vidéos. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est des prompts que je n'ai jamais réussi à faire ou à travailler, mais je n'ai peut-être pas travaillé très longtemps dedans pour le faire. Mais c'est des animations que vous pouvez faire directement avec cet outil-là. Vous voyez, vous générez des applications, vous pouvez générer aussi des formats. Vous pouvez générer, quand je dis format, c'est du 16:9 en carré, en 9/16. Vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez retravailler le prompt pour faire des... Vous voyez, là, présentement, on change le format. Vous pouvez uploader des vidéos, agrandir le décor du vidéo que vous avez. Alors, si typiquement, vous avez trop zoomé quelque chose puis vous voulez avoir une vue plus large, mais Pika peut le faire. Pour le moment, Pika est gratuit, pika.art. Vous pouvez l'essayer, l'expérimenter. Ça prend seulement un compte Google ou un compte Apple, je pense. Une adresse de email que vous masquerez si vous avez Apple iCloud Plus. Et vous pouvez utiliser Pika. Moi, je trouve ça juste incroyable qu'on ait ce genre d'outil-là gratuit à notre disposition en ce moment. Est-ce que tu utilises, toi, Jean-François, beaucoup d'outils d'intelligence? Tu as dit que tu utilisais ChatGPT-4, tu es abonné. Est-ce que tu utilises la version de DALL-E pour générer des images, par exemple?
Oui, oui. Avant, j'ai utilisé Midjourney. Après le keynote à l'automne dernier de OpenAI, puis avec les GPT en tant que tel, j'ai décidé de faire le saut de manière tentative, exploratoire, et j'ai laissé tomber Midjourney. Pas parce que c'était pas un bon produit, c'est une question plus de coût, là, mais effectivement que je suis un utilisateur prudent, disons ça comme ça. On pourrait en reparler dans une autre émission, mais je suis un utilisateur prudent de ChatGPT, de DALL-E en tant que tel. Et j'ai même quelques GPT de créer que je me sers presque tous les jours.
Je pense que c'est un bon réflexe parce qu'en ce moment, il y a plusieurs petits procès là, qui arrivent au niveau de la création d'images et de photos. Les corpus qui ont servi à générer, à entraîner ces modèles-là, n'étaient peut-être pas tout le temps libres de droit, on va dire ça comme ça, hein, je pense. Mm-hmm. Ce qui fait qu'ils génèrent des fois des choses qui sont de forte inspiration et puis vous pouvez vous retrouver avec un procès sur le coin de la figure si vous produisez des choses ou vous en soutirez des revenus. Continue dans l'intelligence artificielle. Cette semaine, j'étais très surpris. Je vais faire un petit résumé. Microsoft prend une part incroyable dans la compagnie OpenAI qui fabrique GPT, qui fabrique DALL-E, qui fabrique toutes sortes d'algorithmes d'intelligence artificielle. Il y a eu, je ne sais pas si tu as suivi le délire du fondateur qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui a été pris chez Microsoft, qui finalement revient. Bref, ça a beaucoup bougé dans OpenAI dans les derniers mois, mais ce qui ne bouge pas, c'est que Microsoft investit énormément d'argent sur Copilot. C'est le branding dans tous ses produits. Moi, je suis dans le domaine professionnel, Microsoft, 100% mur à mur. Et du Copilot, on en mange partout. Il y a du Copilot dans les outils pour hors plateforme, des copilotes dans Office, copilotes dans Windows. Et il y avait copilotes gratuitement dans Bing. Jusqu'à présent, si vous vouliez accéder à copilotes, il fallait aller dans Bing. Et là, vous aviez une petite icône, vous cliquiez et vous pouviez utiliser copilote, qui en bout de ligne était ChatGPT en arrière, mais hybridé. Pas de la même manière que ChatGPT. Et là, ils ont dernièrement sorti une application sur iOS, iPadOS, où vous avez directement Copilot, passez pas par Bing, vous avez vraiment une application Copilot et vous pouvez utiliser l'algorithme ChatGPT-4. Et avant-hier ou hier, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'ils ont intégré gratuitement les plugins, certains plugins, directement dans Copilot. Alors, pour pouvoir voir les plugins, j'ai dû sans doute faire une drôle de manipulation où je suis arrivé dans une mauvaise mise à jour, mais je l'avais vu sur Safari. Puis après ça, je ne l'ai plus revu jamais sur Safari, ce bandeau-là à droite qui est au, que vous voyez au centre. Pour pouvoir le voir, il faut installer Microsoft Edge. Une fois que vous avez installé Microsoft Edge et que vous vous êtes connecté avec votre compte Microsoft, ben là, vous voyez les plugins que vous pouvez activer. Alors, vous pouvez activer Instacart, Kayak, quelques plugins assez connus, des plugins pour aller vérifier sur Internet avec votre agent conversationnel. Dans la version gratuite, on est limité au nombre de plugins, mais je vous avoue que moi, dans ChatGPT, je n'ai pas activé beaucoup de plugins. Toi, dans ChatGPT, en as-tu activé beaucoup, Jean-François?
Non, pas vraiment.
Non, hein, ça ne vient pas naturellement, je trouve, d'aller activer des plugins. On s'attend que l'intelligence artificielle est tellement forte qu'elle va le faire elle-même à un certain moment donné. Mais bref, vous pouvez maintenant avoir les plugins. Alors, vous avez Copilot l'application, vous avez Copilot le site web Microsoft.com où vous pouvez interroger. Et si vous avez Edge, vous avez aussi en plus des plugins pour aller plus loin. Pour aller où plus loin? Mais pour aller sur Suno, parce que c'est la dernière application que je vous présente ce soir. On parlait de création, alors faites attention encore une fois. Sur les créations que vous allez faire avec les outils d'intelligence artificielle. Suno, est-ce que tu en as entendu parler, Jean-François, de cette application?
Non, en train d'apprendre de quoi, là?
Alors, Suno, c'est ton producteur, compositeur et interprète et même monteur des chansons. Tout simplement, tu dis à Suno, je voudrais faire un thème, je voudrais une chanson qui parle de ça, qui parle de tu fais un prompt, hein, tu fais un descriptif de ce que tu veux faire avec Suno. Et après ça, tu peux même aller dans le style. Alors là, j'ai des styles, j'avais un style joyeux, mais j'ai fait des styles métal aussi. C'est assez incroyable. Il m'a fait deux styles métal. Je vais vous montrer. Je ne sais pas, vous ne l'entendrez pas. Voilà. Vous voyez ici, ça, c'est mon application Suno. J'ai repris la même paragraphe et j'ai dit, peux-tu me le faire en version métal? Il m'a fait deux versions métal de l'application. De ma chanson, en fait. Et c'est assez surprenant. Je prenais des cours de batterie. J'ai parlé à mon professeur de batterie avant-hier ou hier. Et je disais, Christian Morissette, hein, si vous voulez, j'ai fait une pub, christianmorissette.com. Si vous voulez des cours de batterie, allez suivre. Il fait des choses en ligne maintenant. Il va en faire de plus en plus. Et je disais, comment tu vois ça, l'intelligence artificielle? Il dit, ben écoute, pour le moment, lui et ses collègues l'utilisent. Il connaît des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des montages, pour éviter d'aller dans des grands studios comme Abbey Road à Londres ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas encore dans les productions en tant que tel. Il n'y a pas de voix qui se fait, il n'y a pas de texte qui se fait avec ça, en tout cas dans son entourage. Mais allez tester l'application Suno parce que vous allez vous rendre compte que, OK, c'est drôle, c'est léger, mais c'est assez incroyable ce qu'on est rendu capable de faire. Et puis, en plus de ça, chaque Suno chanson que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir la partager dans vos médias sociaux. Il va vous générer une vidéo MP4 que vous allez pouvoir mettre sur TikTok, sur Instagram. Bref, vous pouvez rire avec ça et vous amuser. Tu ne connaissais pas ça? Est-ce que c'est un truc que tu vas tester, Jean-François?
Ben, en fait, je suis intéressé à un cas d'usage particulier. Bon, j'ai un podcast depuis quelques semaines. Puis la musique que je prends d'introduction et de fermeture, c'est une musique que j'ai faite moi-même il y a très longtemps, que j'ai réutilisée. Après avoir cherché des musiques qui étaient libres de droit, souvent, on est limité parce qu'on peut prendre quand on cherche sur Internet. Est-ce que ça, dans le fond, j'imagine que c'est libre de droit, mais est-ce qu'on pourrait faire une espèce de séquence de 20 secondes d'introduction en utilisant un style X?
Oui, oui, oui. Essaye pour ça. Moi, j'ai fait une chanson qui parlait de la difficulté de faire de la création de contenu en vidéo. Il m'a généré ça avec un refrain et tout. Essaye-le. Il y a d'autres intelligences artificielles qui font directement. Il y a même des applications sur iOS. Là, je pourrais vous en partager ou dans la communauté pour en partager. Il y a même Mike Chromebook. Salut Nico, ouais. qui dit qu'il l'a testé. Ça a permis de faire de la musique de Noël. Alors, tu vois, il y en a qui ont fait de la musique de Noël avec ça. Alors, salut Nico, merci d'être là. Cool. Teste-le, c'est assez incroyable. Moi, je l'avais entendu dans le rendez-vous tech avec Patrick Béja puis Guillaume Vendée qui était là dans cette émission-là, dans ce podcast-là. Mais quand je l'ai vu comme plugin directement intégré dans Copilot, j'ai fait, là, on est rendu ailleurs. Alors, je faisais mon prompt, je disais, j'avais un texte sur la difficulté de créer du contenu, tout ça. Puis là, je vois les plugins. Je fais, est-ce que tu peux me faire une chanson par rapport à mon texte? Il m'a fait une chanson par rapport à mon texte. C'est juste délirant qu'on peut faire. Alors, si vous prenez Pika pour faire des vidéos, puis Suno pour faire de la chanson, vous êtes un producteur multi-talent. Si vous prenez ChatGPT pour faire du texte, ça va être juste assez fou maintenant, tout ce qui est à votre disposition. Mm-hmm. Jean-François, les gens qui étaient en chat, c'est la fin de l'émission. J'aimerais juste que peut-être rappeler où on peut te rejoindre. Tiens, je vais afficher ton code QR pour qu'on puisse te rejoindre, participer à tes créations, en tous les cas dans les commentaires. Je vais partager ça. Jean-François, je te laisse la parole. Où est-ce que tu préfères qu'on te joigne et quel contenu tu fais en ce moment? Et peut-être un teaser sur ce que tu vas préparer dans les prochaines fois.
Je pense que l'adresse qui est donnée à l'écran, c'est la meilleure. Meilleur endroit ou me googler juste Numérique Citizen, vous allez voir que je sors relativement facilement dans les résultats de recherche. Je travaille sur un truc que j'étais en phase finale, c'est comment se sortir de Adobe Lightroom pour aller dans un autre univers d'outils de photos. Donc, ça risque d'être intéressant. Je vais écrire un article qui détaille le processus. Ça, c'est une chose. Je travaille aussi sur comment sécuriser son univers Apple avec les différentes fonctionnalités qu'Apple met à la disposition des gens pour sécuriser, par exemple, son compte iCloud. Tu as mentionné tantôt à la volée iCloud Plus pour cacher son courriel. Il y a aussi une encryption de bout en bout qu'on peut activer, des choses comme ça. Donc, je travaille. Ça, c'est un projet plus à long terme, mais c'est le genre de trucs sur lesquels je travaille.
J'ai hâte de voir ça. Parlant de quitter Adobe, j'imagine, parce qu'il y a une question de coût. Là, je les trouve de plus en plus grippe-sous dans leur façon de faire. Il y a de plus en plus de produits. Celui-là, tu peux faire telle affaire, mais l'autre petite option est dans l'autre produit. Ça devient compliqué. On m'a dit aussi que c'est compliqué de se désabonner d'Adobe. Est-ce que tu as vécu ça?
En fait, si je ne veux pas voler le punch, mais je vais le voler pareil.
Oui.
C'est beaucoup plus simple qu'on pense, en fait.
OK.
C'est un peu l'objectif dans mon article, c'est quoi les étapes préparatoires qu'on doit faire pour se sortir avec élégance sans perdre de photos, par exemple.
Ouais.
Quand même un élément essentiel. Se sortir de cet écosystème-là pour être capable d'aller ailleurs après. Il y a des limitations, là, mais quand même, c'est beaucoup plus facile qu'on pense.
Excellent. Petit aparté, il y a Windows FR qui vient de participer à l'émission en disant ceci, que Copilot n'est pas encore dispo sur Windows 11 dans l'Union européenne à cause du GDPR, la protection des données. Alors, désolé pour Windows 11. Peut-être Windows FR nous dire si vous avez accès au site web Copilot, ce serait intéressant peut-être pour la communauté. J'afficherai ton commentaire. Quant à moi, vous êtes sur la chaîne Apple et compagnie. Si vous nous regardez sur YouTube, vous êtes peut-être sur Kick. Je ne sais pas, j'ai fait un test ce matin, voir sur Kick. N'hésitez pas, la semaine prochaine. Ah, regarde ça, là, c'est parfait. Merci Windows FR, je vais l'afficher. La semaine prochaine, vidéo de la semaine, je vous réserve une surprise. J'ai fait plusieurs découvertes sur l'Apple TV. Il y a beaucoup de nouvelles applications qui sont arrivées sur l'Apple TV, notamment Apple TV, l'application en elle-même qui a changé complètement d'interface dernièrement, mais d'autres nouvelles applications. Alors, la vidéo de dimanche prochain, ça va être réservé à l'Apple TV. Alors, si vous avez cette plateforme-là et vous l'utilisez juste pour Netflix, peut-être que vous allez découvrir des trucs intéressants sur cette plateforme-là. On se retrouve dimanche prochain à la vidéo du dimanche et merci à tous et à toutes qui ont participé à l'émission. Merci. Bye bye. Ciao, ciao tout le monde.
Bye bye.